On va partager, si vous le voulez bien, la parole du Seigneur ensemble. Alors que je réfléchissais à les textes que j'ai préparés, je me suis senti l'âme d'un poète à un moment donné. Et voilà ce qu'il en est sorti. C'est trop simple, une phrase. Noël nous rappelle que Dieu nous appelle. Les anges, un ange en particulier, on en a parlé la semaine dernière, les enfants doivent s'en souvenir, j'espère. Un ange a fait un appel à des bergers qui sont allés voir le Seigneur Jésus. Je ne vous rappelle pas toute l'histoire, mais ce matin, je voudrais aller dans un sens beaucoup plus large, parler de l'appel de Dieu. Ce temps que nous vivons, c'est un temps particulier qui montre que Dieu s'intéresse à l'homme. Et Dieu, même plus que s'intéresser, appelle, lance un appel pressant. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que vous allez me dire, ça s'est passé il y a 2000 ans, oui, mais jusqu'à aujourd'hui, cet appel retentit. Au travers du message de l'Évangile, cet appel continue de retentir et il va continuer de retentir jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça qui est une bonne nouvelle aussi. Mais pour le rendre de manière très pratique, nous allons aller dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 4 et nous intéresser à un appel que Jésus a lancé à des disciples. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dans le chapitre 3, il est question du baptême du Seigneur Jésus, et on sait qu'à partir du chapitre 4, après sa tentation dans le désert, d'où il est sorti victorieux, il va commencer son ministère. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit dans ce verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Jésus était en train d'annoncer la bonne nouvelle, mais de manière concrète, la bonne nouvelle pour Simon, pour André, pour Jacques et pour Jean, c'était d'entendre l'appel qui leur était lancé. Est-ce que vous pensez qu'ils ont bien fait de répondre à l'appel qui leur a été lancé? Ben, quand on lit la suite des évangiles et même les épîtres, on se dit que oui, ça valait la peine. Avec tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont vu, et aussi le ministère qui leur a été confié, simplement parce que de simples pécheurs ont répondu à l'appel du Seigneur Tout-Puissant, tout ce qui s'est passé nous montre qu'ils ont bien fait de répondre à cet appel. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire quand on parle d'appel. Parce qu'en français, on a le mot appel, l'appel téléphonique, on a le fait d'appeler quelqu'un, mais quand Jésus appelle, c'est beaucoup plus fort que tout cela. Quand on appelle nos enfants à venir à table, vous avez tous vécu ça, et qu'au bout de un quart d'heure, toujours, il n'y a personne qui est là, on est obligé de réitérer l'appel 50 fois, là, de réchauffer les plats 18 fois, il y en a qui connaissent ça, hein. C'est pas ce genre d'appel-là, hein, dont on parle. Quand Jésus appelle, c'est une proposition et c'est même le commencement d'un changement de vie. Parce que la personne qui accepte l'appel déjà commence à être transformée, déjà commence à rentrer dans un processus où il y a du changement. C'est beaucoup plus fort que ça et c'est ce que nous devons vivre en tant que croyants. Quand Dieu appelle, c'est du réel, c'est du concret, ça change dans notre vie. Simon-Pierre faisait partie donc de ces disciples-là, et sa vie a commencé à changer dès l'instant où il a suivi le Seigneur Jésus. Les habitudes ont changé, ben il est dit qu'il a laissé ses filets, il était habitué à faire la pêche, il a laissé ses outils de travail, et il a commencé à vivre une journée différente en suivant le Seigneur Jésus, en faisant ce que Jésus lui demandait de faire. Est-ce que ça, déjà, c'est pas une sorte d'appel qui donne envie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dis-le-moi et je le ferai. Est-ce que ça veut dire quand on répond à l'appel du Seigneur qu'on n'a rien à apprendre? Ils nous appellent parce qu'on est des gens super. Mais on sait que c'est exactement le contraire en fait. S'ils nous appellent, c'est qu'on a tout à apprendre. Mais le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être à la suite du Seigneur Jésus. C'est d'être son disciple. C'est d'être celui qui veut lui obéir. Il a vraiment commencé à changer et à être transformé et à apprendre en étant dans la présence du Seigneur Jésus. Nous croyons que à chaque fois que nous ouvrons la parole de tout notre cœur, à chaque fois que nous méditons les versets, l'enseignement du Seigneur, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous répondons à l'appel du Seigneur. Mais quand Simon a répondu à l'appel, je crois qu'il ne savait pas trop ce qu'il attendait en fait. Il n'avait pas idée de tout ce qui allait se passer. Pour nous, c'est facile, on a toute l'histoire. Tout est écrit. Mais Simon, lui, il entendait l'appel de Jésus, il ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière. Il ne savait pas trop en quoi allait consister l'appel, en fait. Pourtant, il est dit qu'il a tout laissé. Et d'ailleurs, les autres ont fait pareil. Ils ont laissé même leur père. Ils ont tout laissé et l'ont suivi. Pourquoi? Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que Simon a fait ça? Simplement parce que même s'il ne savait pas en quoi consistait l'appel, il a eu la foi en Jésus. Il a cru que Jésus pouvait lui apporter quelque chose. Frères et sœurs, quand on a cet état d'esprit-là, ben, tout ce qui peut arriver dans la vie va être positif. Parce que quand on a la foi que Jésus est là, que sa présence est là, on sait que les choses vont bien se passer. On sait que même s'il y a des turbulences, la présence du Seigneur va suffire. Mais c'est très intéressant de voir ce que Pierre, l'apôtre Pierre maintenant, va écrire dans sa lettre. Ça, c'est juste l'introduction pour nous dire que Jésus appelle. Mais Pierre, quand il va devenir un apôtre en responsabilité qui doit s'occuper des églises du Seigneur, le Seigneur lui a dit, paie mes brebis. Qu'est-ce qu'il va dire à ces chrétiens qui peut-être lui rappellent le jeune Simon qui a commencé à suivre le Seigneur et qui savent pas trop où c'est qu'ils mettent les pieds? Ben, Pierre, dans son épître, va expliquer en quoi consiste l'appel, à quoi est-ce que nous sommes appelés. C'est très intéressant de voir ce qu'il va dire. Et on va aller maintenant dans 1 Pierre, donc. Il va parler d'un appel à la sainteté, un appel des ténèbres à la lumière, un appel à surmonter la souffrance, un appel à la bénédiction, un appel à la gloire. 1 Pierre, chapitre 2, pour commencer, le verset 9. Pierre va répondre donc à cette question, à quoi ressemble l'appel que le Seigneur nous lance? Peut-être que certains chrétiens de l'époque lui ont posé la question, hein, et c'est pour ça qu'il a écrit. Mais c'est intéressant donc de le dire ces versets. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Vous avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Quand Pierre considère sa vie et ce qu'il a vécu, le parcours avec le Seigneur Jésus et la suite, parce que Jésus est allé au ciel, et c'est lui qui a dû s'occuper de l'église qui était à Jérusalem et qui a. Et on voit même dans cette lettre, il s'adresse à toute l'Asie, il s'adresse à beaucoup de provinces où il y a des croyants. Et dans ce contexte-là, il dit, l'appel que le Seigneur nous lance, c'est un appel à passer des ténèbres à la lumière. C'est un appel à changer radicalement notre existence. La foi, c'est un changement de dimension. On passe des ténèbres à la lumière. Alors c'est bien sûr c'est de manière spirituelle, mais c'est une réalité. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de nous. Ce n'est plus les ténèbres qui sont là. Pourtant, quand on est dans les ténèbres, on s'en rend pas forcément compte, hein. Mais quand on est dans la lumière et qu'on a connu les ténèbres, on voit la différence. Comment est-ce que c'est possible de passer des ténèbres à la lumière? Ben, c'est aussi simple que ce qu'on fait tous les jours. Comment vous passez des ténèbres à la lumière tous les jours? Il y a quelqu'un qui me fait comme ça. On tourne le bouton. Ou on appuie sur l'interrupteur. C'est simple, hein? Il suffit de laisser la lumière entrer et les ténèbres s'en vont. Spirituellement, c'est tellement simple, mais c'est la même chose. Ah, vous allez me dire oui, mais je ne trouve pas l'interrupteur. Mais l'interrupteur, il est sur le verrou de notre cœur, qui suffit d'ouvrir pour que la lumière de Jésus-Christ rentre, pénètre à l'intérieur de nous. Parce qu'on peut lire pendant des années la Bible et qu'elle ne va jamais rentrer dans notre cœur parce que notre cœur est fermé, parce qu'on n'a pas appuyé sur le bon bouton. Mais quand on appuie sur le bouton de la foi, quand on ouvre notre cœur à la parole de Dieu, qu'on laisse pénétrer le Seigneur Jésus à l'intérieur, il a été question tout à l'heure que Jésus vienne faire sa demeure en nous. C'est une réalité. Mais quand Jésus fait sa demeure en nous, Jésus qui est la lumière de la vie, il apporte l'éclairage. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Jésus est le Messie. Le Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Et entre autres, une des onctions qu'il a reçues, une des missions qu'il a reçues, c'est de guérir les aveugles. On sait qu'il l'a fait de manière physique à plusieurs aveugles, mais on sait qu'il a fait, et il l'a fait pour nous, de manière spirituelle. Quand nous avons laissé le Seigneur Jésus venir en nous, il nous a donné de voir spirituellement, d'avoir la lumière spirituelle et de comprendre que notre vie passée, elle ne valait rien devant Dieu, du point de vue de la sainteté. Alors, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tel que nous sommes. Il veut que nous puissions changer et c'est pour ça qu'il nous donne sa lumière. Quand on accueille dans notre cœur le Seigneur Jésus, il ouvre nos yeux sur nos souillures. Il ouvre nos yeux aussi sur son pardon qu'il nous a acquis à la croix. Quand on lit sa parole, quand on écoute ses enseignements, ils éclairent nos pas dans ce monde. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il y en a qui le connaissent ce verset? Il y en a qui l'ont vécu ce verset, parce que c'est mieux, hein? Connaître un verset, c'est bien. Mais vivre le verset. Combien de fois, en lisant la Bible, le Seigneur m'a dirigé? Combien de fois? Et combien de fois je veux le vivre encore, parce que ça donne envie de goûter à la parole du Seigneur de manière concrète. Pensez à Simon quand la lumière a pénétré dans sa barque. Quand Jésus lui a dit, est-ce que je peux utiliser ta barque pour prêcher à la foule? Pensez à ce Simon qui, lors de la pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'il a fait? Quand la lumière a pénétré dans sa barque, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, tu as bien fait de me choisir, hein? Moi, je suis quelqu'un qui, tu vas voir, ça va déménager. Tu vas voir, moi, j'en veux, hein? C'est ça qu'il a dit? Il est tombé à genoux. Seigneur, retire-toi. Je suis un homme pécheur. Vous voulez avoir une preuve que la lumière est là? Mais quand vous voyez une personne qui se repent de son péché, c'est que la lumière, elle est là. Parce qu'on ouvre les yeux sur la réalité de ce que nous sommes. Mais regardez comment Jésus va le traiter. Il va pas lui dire, tu as raison, tu es un pécheur, tu ne vaux rien. Il va lui dire, c'est ce qu'on a lu d'ailleurs, maintenant tu vas être un pécheur d'homme. Tu es un pécheur, c'est vrai. Tu es un pécheur dans le sens des souillures. Maintenant, je vais faire de toi un pécheur, quelqu'un qui va amener d'autres hommes dans le royaume de Dieu. Toi qui es dans tes ténèbres, je te donne la lumière. Maintenant, c'est toi qui vas apporter la lumière aux autres. Et on sait qu'il l'a fait, hein. À la Pentecôte, quand on voit le Pierre qui est là, qui annonce la parole, et les nombreuses personnes qui sont sauvées ce jour-là, la pêche miraculeuse, c'est la seconde pêche miraculeuse, même la troisième pêche miraculeuse qui a lieu à ce moment-là. Mais là, c'est la pêche des hommes que le Seigneur Jésus avait promis parce que Pierre a répondu à l'appel. Il a d'abord vécu, lui, ce passage des ténèbres à la lumière, et ensuite il a pu être utilisé. Mais c'est ça que le Seigneur nous dit. Quand il nous montre nos fautes, c'est pas pour nous abaisser, c'est pour nous relever, c'est pour nous pardonner, c'est pour nous purifier, et c'est pour que nous puissions ensuite être des instruments entre ses mains. Quand nous reconnaissons notre péché, entendons l'appel du Seigneur, qui ne s'arrête pas à ça, mais qui nous dit, regarde ce que j'ai préparé pour toi. Savez-vous que Dieu a préparé des œuvres pour vous, pour chacun? Vous allez me dire de manière générale, oui, on le sait, le Seigneur nous appelle à annoncer sa parole. Oui, mais pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, le Seigneur t'appelle à entrer dans ses œuvres préparées d'avance. Quand on lit ce passage de son épître de Pierre, donc 1 Pierre 2, verset 9, on voit qu'il fait ce contraste entre ceux qui croient et ceux qui sont incrédules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il souligne, dans ce qu'on vient de lire, les privilèges de la foi. Combien c'est bon d'être quelqu'un qui a la foi en Dieu et la foi qui est cette dimension de passer des ténèbres à la lumière. Quand on croit, on entre dans une race élue. Alors il n'est pas question de race dans le sens de ce qu'on entend sur la terre. C'est juste le sens de... On rentre dans une famille, la famille des élus. On commence un sacerdoce royal. Un sacerdoce, c'est un service sacré auprès du roi des rois. Vous êtes content d'être au service du roi des rois et du seigneur des seigneurs? Nous entrons à son service par la foi. On devient membre d'une nation sainte. C'est où? C'est quel pays qu'il faut aller? Non, il n'y a pas besoin d'aller en pèlerinage n'importe où. C'est la nation sainte, c'est la nation de ceux qui croient, de ceux qui sont devenus saints par la foi. Nous sommes devenus membres du peuple qu'il s'est acquis par son sang. C'est ce que nous a rappelé encore cette table, ce repas que nous avons pris tout à l'heure. L'appel de Dieu n'est pas basé sur nos mérites. N'essayons pas de faire de grandes choses pour mériter quoi que ce soit. L'appel de Dieu, il est basé, c'est ce qu'on a lu, sur sa miséricorde. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde. Maintenant, vous avez la miséricorde. Vous aimez la miséricorde de Dieu? Vous aimez la grâce de Dieu? La grâce, c'est ce qui nous permet de goûter au bienfait du Seigneur alors qu'on mériterait tout le contraire. Mais le Seigneur nous aime et il nous appelle à passer des ténèbres à la lumière. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, juste au-dessus, voyons ce second appel. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, 15. L'appel du Seigneur, c'est un appel à la sainteté. Vous êtes d'accord? L'appel du Seigneur, c'est un appel à la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons être saints dans tout ce que nous sommes. Là, il est parlé de notre conduite. Notre conduite, c'est la façon dont on se comporte. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes appelés à viser la sainteté. Vous êtes toujours d'accord? Attention, je vais en rajouter, hein. La sainteté dans les pensées, la sainteté dans les habitudes, la sainteté dans les choses que l'on regarde, la sainteté dans les choses que l'on écoute, la sainteté dans les choses que l'on fait, l'intégrité du cœur, la bonne conscience, etc. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est cette sainteté-là que le Seigneur nous appelle. Un chrétien qui répond à l'appel de Christ entre forcément sur un chemin de sainteté. Alors on sait qu'en y rentrant, on ne devient pas parfait d'un coup, hein, comme ça, mais on a ce but, cet objectif, on vise la sainteté. Et si c'est un bon moyen de savoir si on est sur le bon chemin, si je ne vise pas la sainteté sur le chemin que j'emprunte de ma foi, mais je ne suis pas sur le chemin de l'appel du Christ. Je suis sur un autre chemin. J'essaye de vivre ma religion, de prendre les choses qui m'arrangent dans la Bible et puis les choses qui m'arrangent dans ce monde. Est-ce que ça fonctionne? Ben non, ça fonctionne pas. Quand on mélange, imaginez, vous avez deux merveilleux plats, du saumon, allez, prenons du saumon et puis de la choucroute. Les deux plats, mis à part, sont très bons, mais vous les mélangez, ça, c'est infect. Parce que ça se mélange pas, ça se marie pas. Moi, j'ai pas pris peut-être les meilleurs exemples, mais là encore, ce sont deux plats qui, chacun de leur côté, sont bons. Mais quand on parle des choses du monde, on a l'impression que c'est bon, mais au final, on sait que ça apporte la mort, alors que les choses de la parole de Dieu, parfois, semblent très dures à avaler, mais ça apporte la vie. Voilà pourquoi il faut pas mélanger. Et quand on entre sur ce chemin de sainteté, bien sûr que le Seigneur est là pour nous aider. Comment avoir une conduite sainte? C'est le verset 14 qui nous le dit, juste en dessus. Vous avez remarqué que quand Pierre parle, il dit « Mais puisque », ça veut dire qu'avant, c'est important de lire ce qu'il dit. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Quand nous connaissions pas le Seigneur, quand nous étions dans l'ignorance, nous avons fait toutes sortes de choses, nous avions des désirs qui était totalement différent des désirs que nous avons maintenant par la grâce de Dieu. Mais comme des enfants obéissants, nous devons ne plus adopter les modèles du monde, nous ne devons plus être forcément la mode du monde, mais nous devons savoir ce que Dieu dit qui est bon, ce que Dieu dit qui est saint. C'est comme si Pierre est en train de dire, maintenant par la foi, vous devez prendre du recul, vous devez vous élever sur votre vie et regarder ce que le Seigneur dit des choses. Pas laisser vos désirs vous dominer. C'est vrai, quand il est question de convoitise, des fois on cherche des choses compliquées, mais les convoitises, c'est juste les désirs forts qui nous poussent à faire telle ou telle chose. Et on sait qu'il y a des désirs forts qui sont bons. Convoitise, c'est le même mot que désir fort. D'ailleurs, Jésus, il a eu ce désir fort. Mais vous savez, c'était à quel moment? Quand il voulait prouver son amour aux siens en leur lavant les pieds. J'ai eu ce désir fort de manger cette Pâque avec vous. Parce que dans ce repas de la Pâque, il a pris le temps de leur montrer son amour. Mais c'est le même mot, c'est le même mot que convoitise. Sauf que c'est un bon désir que Jésus il a eu. Et là, on sait que quand on est dans le modèle, dans les stratégies, dans les façons de penser de ce monde, on retombe dans des mauvais désirs. Des désirs forts qui nous poussent à faire des mauvaises choses, à faire des mauvais choix. Mais Simon avait compris quelque chose. Regardez, dans Jean chapitre 6. On va sortir un instant de cet épître de Pierre, mais il est question de Simon là. Jean chapitre 6, verset 67, voilà ce que nous pouvons lire. Alors que Jésus vient de dire des paroles très dures, on parlait de choses difficiles à digérer des fois dans les paroles du Seigneur. Il y en a qui sont partis quand ils ont entendu ce qu'il disait. Et Jésus donc dit aux 12, verset 67, « Et vous, est-ce que vous voulez pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre, regardez sa réponse, lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. » C'est intéressant la suite, souvent on s'arrête là. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça veut dire que Simon, il avait compris que le chemin de sainteté, c'est pas des ordonnances, c'est pas des choses qu'il faut faire. Oh, il faut faire ceci, il faut pas faire cela, c'est pas une loi pesante et difficile. Jésus va parler d'un fardeau doux et léger quand on pratique son enseignement. Mais il a compris que c'est surtout une personne. Le chemin de sainteté, c'est suivre Jésus qui est le Saint. C'est suivre Jésus qui est la sainteté incarnée. C'est suivre celui qui a annoncé la nouvelle de comment devenir de plus en plus saint par la grâce de Dieu, de faire des progrès dans la sainteté. Mais c'est celui qui nous en donne la capacité surtout. N'essayons pas d'avancer sur ce chemin tout seul. Hein, parce que là, on va devenir des religieux, des hypocrites, qui vont commander aux gens de faire des choses qu'ils ne font pas eux-mêmes. Mais quand Jésus est celui qui nous guide sur le chemin de sainteté, on est tellement captivé par sa présence qu'on ne se rend pas compte qu'on fait des progrès. Vous avez déjà, souvent c'est à la fin de l'année on le fait, vous avez déjà fait un peu le débriefing de votre vie avec l'année passée, en vous disant, mais est-ce que j'ai fait des progrès? Est-ce que j'ai fait des choses nouvelles? Est-ce que ça, les choses que j'avais prévu de faire se sont bien déroulées? Et le faire sur plusieurs années, des fois, c'est intéressant. C'est de voir ce que le Seigneur nous permet de faire. Moi, si on m'avait dit un jour, tu prêcheras devant les gens, j'aurais dit, tout, mais pas ça. Donnez-moi tous les travaux du monde, cachés, loin de la foule. Mais le Seigneur, lui, il avait un autre appel pour moi. Mais si on me l'avait dit et que ça allait réjouir même mon cœur de le faire, j'aurais pas cru la personne. Mais avec le Seigneur, permet d'avancer, il nous permet de grandir, il nous permet d'avancer sur ce chemin de sainteté. On sait que même Simon, jusqu'à la fin de sa vie, a défendu ce message. Il a été jusqu'à payer lui-même de sa vie au nom du Christ pour la cause de l'évangile. Regardez dans 1 Pierre 2, maintenant, verset 19, cet autre appel, cette autre dimension, parce que c'est toujours le même appel. Mais c'est plusieurs dimensions de l'appel qui sont données. 1 Pierre, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements quand on a commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelez, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. L'appel du Seigneur, c'est un appel à passer des ténèbres à la lumière. C'est un appel à marcher sur le chemin de sainteté, mais c'est aussi un appel à surmonter la souffrance. Ça veut dire que le croyant, c'est normal qu'il connaisse des temps de souffrance. On entend des fois des choses, on entend des fois des enseignements qui nous disent « Si tu es chrétien, tu vas jamais souffrir. » Mais là, vous voyez très bien que c'est faux, puisque Pierre est en train de dire, Pierre qui a connu Jésus, Pierre qui sait ce que Jésus a porté comme message, il est en train de dire « Vous avez été appelés à surmonter la souffrance. » C'est une réalité. Il y a souffrance. Elle touche tout le monde, mais le chrétien a cet appel à la surmonter, à passer par-dessus. Parfois, c'est par la guérison miraculeuse, et parfois, c'est simplement par la patience à endurer la souffrance. Mais le Seigneur nous appelle à surmonter la souffrance pour glorifier son Saint-Nom. Avec quoi est-ce que nous pouvons surmonter la souffrance? Est-ce que vous pensez que Pierre sait de quoi il parle quand il parle de souffrance? Combien de fois Pierre a été arrêté? Combien de fois Pierre a été frappé? Combien de fois Pierre a connu de la persécution au nom du Seigneur Jésus? On sait qu'à Jérusalem, quand justement il y a eu ce temps de la Pentecôte, les foules qui se donnent au Seigneur a suivi un temps aussi de persécution. Et Pierre a été aux premières loges puisqu'il était responsable. Est-ce qu'il s'est dit « Ah, mais si c'est comme ça, si on souffre quand on répond à l'appel du Seigneur, ben je laisse tout tomber. » Non, vous savez, il est dit, quand les apôtres se sont retirés du Sanhédrin, les juges juifs, il est dit qu'il était joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus. Si Pierre avait tagué « Jésus est ressuscité » sur le mur du temple, qu'il aurait été frappé, ben c'était normal. Hein. Mais Pierre a annoncé l'évangile, annoncé la vérité. Et il a vécu la souffrance, et là, cette souffrance a été surmontée par la joie du Saint-Esprit. Savez-vous, frères et sœurs, que quand on est dans la souffrance, le Saint-Esprit prévoit pour nous une portion de joie, une huile de joie pour réjouir notre cœur dans ces moments-là, même si les moments peuvent durer un long moment, mais le Seigneur a une joie correspondante pour nous faire du bien. C'est ce qu'il va dire, regardez dans 1 Pierre 4, on est toujours dans 1 Pierre, donc je profite. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Comptez le nombre de fois qu'il dit joie, allégresse, réjouissez-vous, et vous aurez compris que pour aborder le sujet de la souffrance, on ne peut pas le faire quand le Saint-Esprit est loin sans parler de joie. Vous allez me dire, c'est contradictoire. Comment parler de souffrance et de joie en même temps? Mais c'est contradictoire pour les raisonnements humains, mais pour la puissance de Dieu, pour le Saint-Esprit qui agit dans le cœur des croyants, c'est pas une chose étrange, c'est normal. C'est juste naturel dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu, il veut bénir ses enfants. Je me souviens d'un homme qui a commencé à croire, qui commençait à avoir la foi et qui avait des douleurs dans son corps. Et je lui ai dit simplement, est-ce que vous voulez qu'on prie? Alors, bien sûr, moi, j'aurais préféré qu'il soit guéri. Hein. Mais j'ai dit, est-ce que vous voulez qu'on prie pour que les douleurs soient enlevées? Il a dit oui. Et une semaine après, je suis venu. Il avait toujours la maladie, toujours les conséquences de la maladie, mais il n'avait plus les douleurs. Et il est parti dans la paix avec le Seigneur. Alors qu'il avait les traits tirés à cause des souffrances, c'était quelque chose de vraiment douloureux, en une semaine, il n'avait plus aucune douleur. Parce que le Seigneur avait posé sa main. Il y avait une joie dans son cœur. C'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre par sa grâce. Parce que quand on répond à l'appel du Seigneur, il y a des choses qui se passent. Regardez au chapitre 3. Au verset 9, l'appel du Seigneur, c'est un appel à surmonter la souffrance, mais c'est aussi un appel à bénir. Je vous donne un secret. Ce n'est pas un secret, il est dans la parole de Dieu. Vous le trouvez partout. Mais vous le trouvez écrit de manière très, très claire et un secret qui amène la bénédiction. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous voulez être béni? Vous voulez hériter la bénédiction? C'est ce qui nous est proposé. Et vous avez la recette. Suivez-la à la lettre. Vous savez, on aime bien avoir les recettes, mais on se dit, ah non, là, il n'y en a pas assez, je vais rajouter ceci ou cela. Et le résultat final, c'est que ça ne correspond pas à ce qu'on voulait faire. Non, là, suivons la recette. C'est la parole de Dieu, c'est la meilleure recette. Nous voulons être bénis. Alors ne rendons pas le mal pour le mal. Ne rendons pas injure pour injure. Je me souviens de cet homme qui avait entendu ce verset, qui avait été rappelé dans une prédication, et il était venu me voir à peu près plusieurs jours, en tout cas après que la prédication ait été donnée. Et il m'a expliqué, voilà, moi je suis quelqu'un très colérique, très nerveux sur la route. Quand je suis dans mon camion de travail là et qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, une mamie qui avance pas assez vite, ou alors quelqu'un qui me double et qui me fait une queue de poisson, ou alors quelqu'un qui me grille la priorité, je me mets dans une colère noire. Et il m'a dit, mais j'ai été interpellé par ce verset. Parce que j'ai compris que quand je me mettais dans la colère noire, ben, j'attirais pas la bénédiction du Seigneur sur moi, mais plutôt c'est la malédiction. Parce que quand on choisit de dire des mauvaises paroles sur les gens, parfois même ça nous pousse à dire des grossièretés, et on sait que c'est pas ça la sainteté. Et cet homme vraiment s'est remis en question et m'a dit, mais voilà, j'ai commencé depuis que j'ai entendu ce verset, j'ai recommencé à mettre le Seigneur en premier dans ma vie. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on sait, tous ceux qui ont une voiture savent qu'il y a toujours des choses qui se passent sur la route. Il n'y a pas que des gens bienveillants sur la route. Il y a des gens qui avancent pas ou qui vont trop vite. Mais est-ce que c'est une raison pour se mettre en colère? Et cet homme a dit, ben, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, maintenant je le bénis au nom du Seigneur. Maintenant je prie pour lui que le Seigneur touche son cœur. Et il m'a dit, la façon dont je vis maintenant, ces choses-là, ça a impacté même mon travail. Parce que ça a amené la paix. Et quand j'ai vécu ça, j'ai pu même rendre témoignage à des collègues, à mes employés. Simplement parce qu'un homme s'est remis en question avec la parole de Dieu. Il s'est souvenu, c'est quoi son appel? C'est quoi l'appel du chrétien? Nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à dire du bien sur les personnes qui nous entourent. Ah, ça ne veut pas dire quelqu'un qui nous fait une crasse, excusez-moi l'expression, qu'on va lui sauter au cou. Ah, merci, merci. Ça aurait aucun sens, hein. Mais on ne va pas réagir dans la vengeance. La vengeance, elle est à l'éternel. On va réagir dans la foi. Seigneur, tu vois ce qui m'a été fait, mais je bénis cette personne en ton nom. Seigneur, touche son cœur, fais-lui du bien, montre-lui ce qu'elle a besoin de comprendre. Ça, c'est des prières qui plaisent à Dieu. Et c'est surtout ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Je termine un verset de conclusion. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Vous avez remarqué qu'on est resté que dans Pierre, hein? Parce que c'est le disciple qui a été appelé, qui nous apprend c'est quoi l'appel. Et on sait qu'il parle de choses qu'il connaît. Et à la fin de son épître, voilà comment il va conclure cela. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Oh, quand on lit ce verset, on se dit, Seigneur, fais-le. Je veux le vivre tout de suite. Je veux être inébranlable, Seigneur, dans la foi. Je veux. Et c'est possible en plus. On sait que Pierre, c'est Jésus qui lui a donné ce nom, mais c'est pas pour rien parce que c'était une pierre dans l'édifice de l'église qui a été construite. On sait que la pierre angulaire, c'est pas Pierre, c'est Jésus, hein. Mais une des pierres qui a été construite pour soutenir l'église, et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Et c'est Pierre parce qu'il a répondu à l'appel. Et voilà pourquoi nous pouvons être perfectionnés, affermis, fortifiés. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin ce matin, si vous avez besoin de vous sentir inébranlable dans la foi, mais c'est possible par la grâce de Dieu, parce que il a lancé un appel. Et si nous répondons à l'appel de tout notre cœur, celui qui nous appelait à la gloire, nous sommes appelés à la gloire quand même. Arrêtons-nous une seconde sur cette expression. Appelé à la gloire, mais pas la gloire de la terre. Parce que la gloire de la terre, c'est souvent l'inverse. Quand on cherche la gloire du ciel, on n'a pas la gloire de la terre. Et ceux qui ont beaucoup de gloire sur la terre et qui connaissent le Seigneur parfois sont en grand danger. Mais nous qui avons et qui visons la gloire céleste, nous savons que nous avons un Dieu qui nous affermira, un Dieu qui nous tient dans sa main. S'il nous appelle, il est fidèle, c'est lui qui va faire. C'est lui qui sera là. C'est sa présence qui va tout changer dans nos vies. Frères et sœurs, on a tous des besoins. Mais entendez cet appel du Seigneur ce matin. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Oh non, non, moi, si je suis croyant, il n'y aura pas de souffrance. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Et le peu de temps, ça appartient à l'Éternel, hein. C'est pas nous qui fixons le chrono. C'est Dieu qui décide. Mais dans ce cadre-là, il sera celui qui, parce qu'il nous a appelés, nous affermira. On va fermer les yeux quelques instants. Combien c'est important de prendre un temps pour que laisser l'appel du Seigneur encore retentir. Quelqu'un ce matin a besoin de passer des ténèbres à la lumière. Entends, mon ami, l'appel que le Seigneur te lance. Entends ce changement de vie que le Seigneur te propose. Laisse la lumière rentrer dans ton cœur. Frères et sœurs, laissons la lumière de la parole rentrer dans notre âme. Laissons la lumière du Saint-Esprit, cette flamme ardente, brûler dans notre cœur. Et chasser toutes les ténèbres qui auraient pu rentrer. Venons aux pieds de notre Seigneur. Entrons sur ce chemin de sainteté. Nous serons saints car il est saint, notre Seigneur. Il n'y a pas d'autre voie que lui. Faisons-lui confiance. Qui ce matin entend cet appel? Et qui ce matin veut dire, Seigneur, oui, je réponds à ton appel. Je comprends mieux ce que tu me demandes, Seigneur. Mais je veux faire comme Pierre. Je veux tout laisser et te suivre. Je veux, Seigneur, qu'il n'y ait rien de plus important dans mon cœur, dans ma vie, dans mon quotidien, que ton appel et la façon dont je vais faire pour te suivre. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à la lumière ce matin. Laissons le Christ pénétrer. Laissons l'onction du Seigneur ouvrir nos yeux et nous amener dans ces réalités spirituelles que les choses de la terre ne peuvent nous montrer. Laissons la réalité, la présence de Dieu ce matin, agir dans nos cœurs. Laissons les enseignements de sa parole calmer nos frayeurs, nos angoisses. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui a de l'angoisse, qui a du mal à dormir. Mais le Seigneur est celui qui veut calmer la frayeur. Le Seigneur est celui qui a reçu l'onction pour guérir le cœur qui est brisé, pour donner la joie là où il y a la peur. Alors ouvre ton cœur à sa présence. Ô Éternel, nous te bénissons, Seigneur. Te louons parce que tu es un Dieu merveilleux. Te louons parce que quand tu nous parles, il y a toujours de l'espoir. Tes promesses, Seigneur, sont vraies. Tes promesses sont réelles. Et pour nous qui les avons expérimentées, nous le savons, nous le proclamons. Mais nous avons encore soif de vivre plus, Seigneur. Parce que l'appel que nous avons entendu nous a tellement apporté jusqu'à présent. Seigneur, que ton appel retentisse encore dans nos cœurs, dans nos vies. Pendant ces jours qui vont se poursuivre, pendant ces temps de fête, donne-nous toujours d'avoir dans notre cœur cet appel qui retentit, qui résonne. Et donne-nous toujours d'agir avec cette conduite sainte qui t'honore. Donne-nous toujours de viser cette sainteté à ton exemple, Seigneur. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, tu es là. Et nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Reçois la louange de ton peuple. Merci d'avoir fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Seigneur, nous mesurons tout juste notre privilège. Et nous voulons te bénir. Et nous voulons choisir d'être de ceux qui bénissent, de ceux qui apportent la bénédiction. Là où nous irons, Seigneur, si nous sommes appelés encore dans nos familles, donne-nous, Seigneur, d'apporter la bénédiction. Donne-nous d'apporter la grâce, la faveur. En ton nom, Seigneur. Et nous disons tous ensemble. Amen.